RCFM, le club de la presse.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau club de la presse sur RCFM. Comme chaque semaine, nous ferons une large revue de l'actualité insulaire et même au-delà. Comme chaque semaine, ce sera avec mes confrères de la presse locale, Jean Vitus Albertini de France 3 Corse Via Stil, Gabriel Xavier Couliot, l'écrivain et chroniqueur pour le journal de la Corse, et avec nous Anne Chabanon également de Corse Matin. Bonjour à vous trois. Au menu ce midi, l'Assemblée de Corse en session ces deux jours. Anne, vous y êtes. En attendant l'autonomie, la majorité demande une rallonge sur la dotation de continuité territoriale, mais aussi un rattrapage financier pour s'aligner sur les régions et départements de droit commun. Dans le même temps, la Corse prépare sa saison estivale et le gouvernement, lui, des élections européennes et une compétition olympique, rien que ça. On parlera aussi santé dans cette émission après la visite de la ministre Catherine Vautrin en début de semaine et alors que le projet de loi sur la fin de vie débute aussi son parcours parlementaire. Enfin, le tout dans un contexte social tendu, notamment pour les 1300 salariés de Casino en Corse. Les organisations syndicales rencontrent le nouveau patron du groupe aujourd'hui à Bastia et espèrent en savoir plus sur leur sort.
RCFM, le club de la presse.
L'Assemblée de Corse est donc réunie en session aujourd'hui et demain, je vous le disais, à l'ordre du jour, pas de gestion des déchets, pas plus que de plans d'investissement sur les infrastructures routières ou autres, mais deux rapports destinés à remplir les caisses de la région en matière de transport, déjà avec la dotation de continuité territoriale. L'exécutif veut pérenniser une rallonge de 40 millions d'euros. Cette formalisation, le fait de vouloir justement pérenniser, ça dit quoi des chances de l'obtenir finalement, Jean Vitus ?
Bah écoutez, ça me paraît assez logique qu'ils demandent la pérennisation de cette rallonge budgétaire. Ils le font maintenant depuis 3 ans, je crois, suite au Covid. Mais l'enveloppe est gelée depuis 2009, 186 millions d'euros, ou 187, je ne sais plus exactement, et ça ne bouge pas. Mais depuis, quand même, l'inflation a fait son œuvre, puis tout augmente, le carburant et puis tout le reste. Alors, la rallonge tous les ans, ça évidemment, c'est peut-être plus pratique pour l'État, parce que il n'est pas obligé de mettre la même somme toutes les années. Mais ça paraît quand même assez compliqué parce que les prix ne vont pas baisser. Donc la pérennisation de l'enveloppe, ça me paraît une évidence. Ou alors, il y a autre chose derrière tout ça. Ça veut dire qu'à terme, on va peut-être revoir le système de continuité territoriale tel qu'il est fait. Mais là, on rentre dans une autre logique.
On va y venir. Anne Chabanon, vous êtes sur place à l'Assemblée de Corse, justement. Ça vous paraît logique aussi de formaliser, d'écrire ?
Alors, la revalorisation de l'enveloppe, si elle n'est pas de droit, en tout cas, elle est légitime dans sa requête, dans sa demande. Ça, oui. Le contexte est différent, en revanche. Entre une demande qui peut sembler légitime et qui, en l'occurrence, l'est au regard de ce que vient d'expliquer Jean Vitus, à savoir l'inflation et le contexte global inflationniste qui nous entoure, il y a une demande de 40 millions chaque année à laquelle va venir s'ajouter 34 autres millions d'euros, donc 74 millions d'euros en tout, puisque l'autre rapport concerne effectivement une revalorisation de par rapport aux autres départements et régions. Donc moi, je pense que ça fait quand même une grosse somme. Peut-être commencer par la DCT. Dans le contexte budgétaire, c'est déjà pas gagné. 74 millions, ça va l'être encore un petit peu moins. Et surtout, dans le contexte aussi plus large du processus qui est toujours en cours et dont finalement on a assez peu de nouvelles, qui est celui d'arriver à un statut évolutif, une évolution pour la Corse et une autonomie. Est-ce que dans ce contexte-là, le gouvernement va mettre immédiatement ou de rechef la main à la poche et sans discuter, il le fera vraisemblablement. Bon, mais si c'est que discuter, c'est moindre mal. Il sera prêt à débourser cela chaque année. Ça, c'est véritablement une autre problématique et je pense qu'elle n'est pas réglée pour le moment.
Gabriel, peut-être sur ce contexte national qui n'est pas très, très propice.
Non, ça veut dire que ce qui est un peu paradoxal, c'est demander, si j'ose dire, une banalisation de la Corse par rapport aux autres départements régions après avoir dit que c'était une situation qui était exceptionnelle. Ça fait un peu désordre quand même. Bon, par ailleurs, le problème de la rallonge que je trouve aussi, bon, mathématiquement, c'est assez rationnel comme chose, mais il y a quand même l'Europe qui va donner son avis aussi. Parce qu'on ne sait toujours pas quel est le point de vue de l'Europe sur le problème de la dotation à Corsicaline et à la méridionale. Et donc, en rallongeant, c'est où vont aller ces sommes? Et enfin, troisième chose, il y a quand même, je rappelle, qu'il y a quand même la menace d'une nouvelle amende très lourde par la Corsica Ferries, pour la Corsica Ferries, et que tout ça, évidemment, mais surtout, ce que je pense, c'est que dans la discussion sur le processus d'Armanin, ça fait un peu bizarre à la fois de tendre la main, puis en même temps de demander quelque chose où on serait complètement responsable de nos deniers.
Alors l'aérien, le maritime, hein, sont en proie à des difficultés. L'aérien, on l'a suivi jusqu'à il y a encore quelques temps. Hein, tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut repenser le modèle Air Corsica. Est-il encore viable? Pas certain, hein, de l'avis même du nouveau président du directoire d'Air Corsica, Pierre Muraccioli. Il était l'invité de la rédaction hier sur notre antenne. On l'écoute et on y revient.
C'est pas parce que nous avons obtenu les deux DSP bord à bord et Paris avec Air France que nous sommes tranquilles pour 4 ans. La réalité, c'est que ça, c'est la photo. Maintenant, il faut jouer le film. Et ce film sera compliqué parce que il y a une incertitude sur l'amélioration de la dotation dont dispose la région Corse. Cette dotation est figée depuis 2009, même s'il y a eu deux coups de pouce récents. Ça ne suffit pas pour compenser les surcoûts exogènes auxquels nous devons faire face. Sur le carburant, bien sûr, et vous avez peut-être noté qu'il y avait une crise qui avait un impact très lourd sur le prix du kérosène, et aussi la fiscalité verte, puisque nous sommes impactés à la fois par la réglementation européenne et la réglementation française, et que ça va crescendo.
RCFM, le club de la presse.
On vient d'en parler, Jean-Vitus, Pierre Muraccioli, plutôt réaliste hein, que pessimiste.
Bah oui, mais tout le monde fait le même constat. Maintenant, le problème, c'est de trouver la solution. Alors, si les dotations de l'État n'augmentent pas, et en particulier, mais c'est fort probable que ça ne se pérennise pas, hein, parce que la situation financière est catastrophique. Il y a un autre problème aujourd'hui qui est en train de heurter les collectivités locales, c'est la discussion avec l'État sur la DGF, parce qu'évidemment, comme il y a des milliards d'économies à faire, l'État, il se tourne d'abord vers les collectivités locales pour diminuer fortement cette dotation globale de fonctionnement. Et là, il y a véritablement un affrontement entre les collectivités locales et l'État. Alors, évidemment, on sait très bien qu'est-ce qu'il y aura le dernier mot. Mais dans cette affaire, comme dans l'affaire de dotation de continuité territoriale, où va-t-on trouver l'argent? Même demain, avec un statut d'autonomie et avec une compétence fiscale, je ne vois pas où est-ce qu'on va trouver des sommes aussi importantes pour assurer le service de continuité territoriale, aussi bien dans le maritime que dans l'aérien.
Mais d'autant plus que ça a quand même eu un impact. Je vous donne un exemple très personnel. Ma fille voulait venir comme tous les ans avec deux de ses enfants. Elle n'a pas trouvé de billet à moins de 400 euros. Ça veut dire que... Je sais, alors, ça va déterminer le type de clientèle qu'on va avoir cet été, par exemple. Soit on va avoir des gens qui vont tout mettre dans le transport et dans un hébergement au plus bas niveau, mais qui ne vont plus rien dépenser pour la Corse. Soit on va avoir une population qui sera relativement aisée.
Bon, c'est vrai que ça fait quelques années hein, oui, qu'on se pose
oui, c'est ça.
La question, mais il reste un tourisme de niche tout de même.
Voilà, ouais, mais oui. comme disait très bien M. Muraccioli, jusqu'à maintenant on était dans la photo, maintenant on passe dans le film, c'est-à-dire dans le mouvement, la dynamique, la perspective. Et là, je dois dire que c'est un peu le poteau noir.
Le maritime aussi, hein, c'est compliqué. Vous l'avez abordé justement, Gabriel. Ça fait aussi l'objet d'une question orale ce matin avec cette fameuse ligne Île-Rousse-Toulon dont on a tant parlé. Une quinzaine de questions orales ce matin. Anne Chabanon, vous êtes toujours à l'Assemblée de Corse. On a parlé même des déchets, mais en 12 minutes seulement. Le rapport, on l'attendait sur février. Visiblement, ce n'est pas encore gagné. Même le DGS s'en va. Elle est à l'arrêt, cette collectivité. Anne ?
En tout cas, c'est récurrent, on l'a beaucoup dit à ce club, la collectivité, quand elle se réunit chaque fin de mois pour tenir session, ne présente plus véritablement un intérêt comme on a pu le rencontrer il y a encore, pas si longtemps non plus. On est effectivement sur des ordres du jour qui sont assez indigents, pour ne pas dire pauvres, et effectivement, on attend des sujets et des dossiers qui ne reviennent pas. Vous l'avez cité, celui des déchets, celui aussi du PADUC, de cette révision du PADUC qui a été aussi évoquée, qu'on ne voit pas venir. Et Dieu sait que c'est important, c'est l'aménagement du territoire de la Corse. On attend de revoir et de pouvoir débattre de tout cela. Et effectivement, on attend aussi une programmation pluriannuelle. C'est revenu, et ça reviendra cet après-midi vraisemblablement avec les deux rapports financiers. En fait, on attend beaucoup. On attend aussi la suite, alors du processus, et en même temps, on a l'impression que quand ce processus semble aujourd'hui non pas à l'arrêt, mais en tout cas suspendu à que va décider le président de la République.
Il n'avance pas plus en tout cas que l'ordre du jour de l'Assemblée de Corse.
On a l'impression que ça s'aligne un petit peu sur ce temps mort auquel on assiste en ce moment, effectivement.
Jean Vitus, Gilles Simeone était d'ailleurs un peu gêné ce matin sur le rendu de son entrevue avec le Premier ministre, notamment par rapport à l'avancement, s'il y a, de ce processus.
Oui, mais ça, on l'a répété en permanence. Ce processus, on sait bien comment il a démarré. Alors, quand ça avance, malgré tout. Alors là, on est dans une période creuse. Alors, ça va reprendre à un moment donné, quand l'actualité nationale sera un peu moins prégnante. Mais bon, vraiment, ce n'est pas le cas avec les Jeux Olympiques et tout ce qui arrive.
Voilà, est-ce qu'on peut en parler avant l'été? Est-ce qu'on peut espérer en parler?
Voilà, peut-être avant l'été. Il y aura peut-être un créneau pour... Je ne parle pas du débat parlementaire. Ça, je pense que ça ne viendra pas avant l'automne. Non. Mais au moins pour qu'il y ait une rencontre entre le président de la République et les élus corses, pour que le président de la République arrive quand même à écrire ce fameux article de la Constitution.
Et qu'ensuite, parce qu'à la rentrée, ça se fera peut-être même sans M. Corse, hein, M. Darmanin.
C'est tout à fait possible aussi. Mais enfin, déjà que le projet de loi constitutionnelle commence à être rédigé, parce qu'il y a encore après l'étape du Conseil d'État, etc. etc. Et puis en plus, devant l'Assemblée nationale, il y a un délai d'un minimum de 6 semaines, je crois, avant que, même s'ils utilisent la procédure accélérée, ça peut être un peu plus tôt, mais enfin, on sera à peu près dans ces eaux-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus prendre un retard infini, puis entre-temps, évidemment, il y a quand même une échéance importante, c'est l'élection européenne, et ça risque de déterminer un certain nombre de choses au plan gouvernemental.
Alors, quand on ne parle pas d'autonomie, on parle de dépendance financière, hein, j'entends, puisque Anne, vous commenciez justement à effleurer le sujet tout à l'heure. On demande beaucoup d'argent aujourd'hui. Il y a cette rallonge de la dotation de continuité territoriale, mais également 34 millions d'euros supplémentaires. Et chaque année, hein, là aussi, il s'agit finalement d'une injustice, hein, la différence structurelle concernant les ressources financières de la CDC au regard des autres régions et départements de droit commun. Vouloir être comme les autres dans le droit commun lorsqu'on revendique la spécificité et l'autonomie, est-ce que c'est cocasse ou c'est équitable, Gabriel ?
Ben, les deux, mon général. C'est une équité cocasse, parce que c'est vrai que ça risque de faire sur Paris un peu désordre. Je rappelle quand même que le président Mitterrand, en 1923, avait abordé le problème de l'autonomie et avait dit, mais l'autonomie, c'est quelque chose qui peut avoir des avantages et aussi des inconvénients, et notamment sur le plan budgétaire. C'est-à-dire que quand on est autonome, on est responsable de l'enveloppe qu'on vous donne, et on fait avec, on peut pas tout le temps demander des rallonges. Bon, là, le problème qu'il y a, c'est qu'évidemment, il y a quand même c'est un mouvement syncopé, il y a un contre-temps dans l'affaire. Hein. C'est surtout qu'en plus, on ne connaît rien du tout de ce qui va se passer au niveau mondial, c'est-à-dire notamment au niveau du pétrole, des carburants. S'il y a une crise au Moyen-Orient, ça risque de nous faire le même coup qu'en 1973 avec le premier choc pétrolier, et auquel cas, ça va diablement compliquer les choses.
Bon. Jean Vitus, sans aller jusque-là, vous, cocasse, équitable, c'est de droit?
Alors oui, c'est équitable et c'est de droit, puisque c'est vrai que la Corse reçoit moins que les autres en la matière. Mais d'un autre côté, quand on revendique l'autonomie, ça paraît un peu baroque. Donc, il faudrait qu'on ait, en matière fiscale, exactement les propositions des uns et des autres, savoir ce que l'on veut. L'argent que peut recevoir la collectivité de Corse, bon, ça, grosso modo, on connaît, mais qu'est-ce qu'elle peut percevoir et à travers quel transfert de fiscalité ? C'est-à-dire, est-ce que la Corse a la possibilité, aura un jour la possibilité de lever ses propres impôts ? Et est-ce que ces impôts-là, perçus en Corse, suffiront à compenser les dotations de l'État ? Alors, soi-disant que oui...
C'est toujours en tout cas la grande inconnue et pour
l'instant...
Voilà,
c'est ce que disait un rapport de la collectivité, mais c'est un rapport de la collectivité, il faudrait peut-être aller plus loin.
Oui, et puis il y a quand même une autre chose, c'est qu'un des apports des accords fiscaux à la Corse, c'est le tabac et l'alcool. Bon, d'abord, c'est pas très moral, mais ensuite, l'Europe a demandé à ce que désormais, en Corse, le tabac et l'alcool aient la même TVA que sur le continent. Donc d'un côté, ça apportera plus... certainement, mais d'un autre côté, évidemment, c'est on peut se demander si c'est vraiment extraordinaire qu'on gagne de l'argent sur les cancers.
On fumera peut-être moins qu'ailleurs. En attendant, le gouvernement, lui, a d'autres chats à fouetter, on l'a dit, hein, les européennes, les Jeux olympiques, et la saison, justement, hein, cette saison durant laquelle se dérouleront les Jeux, c'est aussi le premier souci à court terme, ici, pour nous, comme chaque année. Les autorités s'attendent à un afflux de touristes important, avec des forces de l'ordre peut-être en moindre quantité et surtout des moyens humains dans le médical notamment, dans les services d'urgence. Hein, la mobilisation générale, ce sera du côté de l'Île-de-France pour les Jeux Olympiques. Des services d'urgence qui sont en tension tous les ans, on le sait déjà, hein, c'est délicat. Cette année, l'ARS mise beaucoup sur les internes, les étudiants en médecine, les médecins venus de l'étranger aussi. Mais les urgences tiendront, a dit Marie-Hélène Le Seine ce mardi sur notre antenne. Jusqu'à quand? Parce qu'on compte aussi beaucoup sur le secteur libéral pour prendre le relais, hein, mais qui lui-même est en crise, on le sait. Anne Chabanon, est-ce qu'on tire sur la corde, peut-être un peu trop ?
De toute façon, tous les étés, on tire sur la corde. Il n'y a pas un été sans qu'il y en ait une alerte à l'urgence, aux urgences précisément, sans qu'on dise qu'il y a embouteillage, sans qu'on dise qu'à un moment donné, on manque de bras. Donc ça, c'est plus ou moins récurrent, avec plus ou moins de force. Ensuite, bien sûr qu'il va falloir faire face on ne sait pas dans quelle volumétrie on aura, nous, de répercussions des JO. Ça peut être conséquent, effectivement. Il y aura aussi avant les urgences, avant la santé, peut-être simplement une organisation tout court. On parlait des déchets, on parlait en approvisionnement en eau.
Sur les médecins intérimaires, hein, qui font tourner nos services, on le sait, là, clairement, c'est dit, hein, il y en aura moins ou pas.
Mais vous l'avez dit aussi, on est dans un domaine, dans un secteur en crise entre les différents changements de la législation, avec des médecins libéraux qui sont montés au créneau cette année, avec des grèves qu'on avait rarement vues chez ces professionnels de la santé aussi. Donc je pense
on parle de déconventionnement massif.
Oui, il ne faudrait pas trop tirer sur la corde non plus.
On fait du bricolage en permanence, hein, depuis tout le temps. Alors, on déshabille Paul pour habiller Pierre, mais le fond du problème n'est pas réglé. Alors, on espère, en tout cas cet été, qu'il n'y aura pas de catastrophe majeure ici, hein, parce que sinon, on risque d'être dans une situation extrêmement délicate. Mais c'est le système de santé en France qui est à bout de souffle, hein, ça, on le sait depuis longtemps. Alors, il y a des réformes qui sont engagées, mais de toute manière, quelles que soient ces réformes, à condition qu'elles soient adaptées, on ne verra pas les effets avant plusieurs années.
Hein. Oui, parce que, bon, Catherine Vautrin est venue, la ministre de la Santé, on l'a dit ce lundi, pour inaugurer un tiers-lieu d'EHPAD, alors aussi important soit-il, ça ressemble plus à une visite de campagne qu'à un souci de la santé en Corse, Jean Vitus.
Oui, bien sûr. Là, il y a une flopée de ministres qui vont arriver, après des candidats et tout ça. Bien sûr, là, on est dans une autre logique. Hein. Je ne suis pas sûr que ça règle le problème des personnes dépendantes en Corse, la visite d'une ministre. Bon, c'est très bien que ce n'était pas Davico, sans doute en faudrait-il même d'autres ailleurs, mais c'est globalement le système de santé lui-même qui est à revoir, ou simplement à voir en Corse. Hein. D'ailleurs, on attend toujours cette affaire d'hôpital de Bastia, on ne sait toujours pas... qui pêche aux Arabes.
On ne sait toujours pas où ça en est non plus. Ouais.
Un nouveau rapport est attendu en Corse comme ailleurs. En tout cas, l'actualité relative à la santé, c'est aussi ce projet de loi sur la fin de vie. Hein, j'en parlais en début d'émission. Il oppose, il divise, hein, bien sûr, jusque dans la communauté médicale. Pour certains, donc, le débat est inévitable. Et pour d'autres, la première question à se poser, c'est celle aussi des moyens, encore une fois, pour les services de soins palliatifs, notamment. Une vingtaine de lits sur toute la Corse à ce jour, nous disait le responsable des soins palliatifs d'Ajaccio il y a peu sur l'antenne. C'est peu. Marie-Hélène Le Seine aussi le reconnaît. Elle annonçait des moyens supplémentaires à venir pour la Corse dans le cadre du plan national. Est-ce que le débat sur la fin de vie, il a lieu parce qu'on meurt mal en France ou parce que finalement, bon, c'est le sens de l'histoire, c'est ce qui se passe aussi autour de nous dans les pays autour. Gabriel.
Moi, je pense d'abord qu'on meurt mal un peu partout. Hein. C'est pas nouveau. C'est-à-dire que ça a été un sujet qui a toujours été mis de côté. Parce que ça fait peur. La vieillesse fait peur, la mort fait peur. Bon, ma génération, donc je ne vais pas encore rappeler mon âge parce que ça deviendrait indécent, mais est une génération qui a été la plus nombreuse de toute l'histoire de l'humanité et surtout la plus riche. Et pendant très longtemps, elle ne s'est pas préoccupée de ça. C'est-à-dire que moi, je me souviens que les premiers débats qui avaient eu lieu sur le problème de mourir dans la dignité, c'était dans les années 80-90, mais très longtemps ça a traîné. Bon. Maintenant, on s'aperçoit que ma génération est en train de partir à la retraite, est partie d'ailleurs à la retraite et vieillit de plus en plus, et qu'elle vieillit. C'est tout le problème de savoir si on veut vieillir le plus possible ou si on veut vieillir dans des bonnes conditions. Bon, et c'est vrai que là, on l'a vu avec le scandale des EHPAD, c'est le privé qui pour l'instant s'est saisi de la chose, bon, même en Corse. Hein. Or là, pour revenir à notre île, on est quand même la région la plus âgée de toute la France. On est en plus une région où les gens âgés sont relativement pauvres, c'est-à-dire n'ont pas les moyens de payer les EHPAD. Et donc, ça pose un vrai problème qui ne peut qu'aller en s'aggravant dans les années à venir. Donc, comment faire ? Ben, j'en sais trop rien, parce qu'autrefois, les vieux étaient gardés dans les familles. Et on s'en occupait d'ailleurs plus ou moins bien, parce que c'est pas la peine non plus.
C'est toujours en partie le cas. En tout cas, la Corse se détache un peu du point de vue du nombre d'aidants et de personnes âgées qui ne vivent pas seules.
Oui, alors Antoine-Marie Graziani me disait qu'à Gênes, qui a exactement le même problème que la Corse, souvent les villages qui sont au-dessus de la ville sont inoccupés, sauf par des vieux, et qu'en fait, ils font venir des aidants, notamment d'Amérique latine. Qui sont des gens. Alors, il y a aussi beaucoup d'Africains qui sont extrêmement doux avec les personnes âgées. Et voilà, peut-être qu'il va falloir venir à... Ça commence déjà, d'ailleurs,
on verra,
en Corse.
Gabriel. Hein. Le vieillissement de la population, Jean Vitus, pour vous, il est aussi prégnant dans cette question de la fin de vie, évidemment.
Oui, évidemment. Et c'est vrai que la Corse n'est pas dotée des structures suffisantes, parce qu'on sait, d'après les chiffres de l'INSEE, si on le voit déjà aujourd'hui, mais pour les 10, 15 ou 20 années à venir, avec un vieillissement de plus en plus important de la population, à tel point que les personnes de plus de 60 ans seront plus nombreuses que celles de 20 ans, et ça pose un vrai problème. Hein.
Pour l'instant, il y a toujours des places en EHPAD, c'est sûr.
Oui, mais
sur
à quel prix, oui,
à quel prix moins
2700 ou 3000 euros par mois,
ouais,
pour qui peut aujourd'hui assumer ça, aujourd'hui en Corse? Oui, certaines, quelques personnes sans doute, mais pas l'ensemble des familles qui sont concernées. Non, mais sur le problème de la fin de vie, c'est pas seulement un problème de moyens, même si ça reste aussi un problème de moyens, c'est aussi un problème moral, un problème éthique. On a bien vu les églises prendre position sur ce domaine, et ça concerne l'ensemble de la société. C'est un problème assez délicat quand même, hein, et je ne suis pas sûr que ce soit simplement une loi qui puisse régler le problème.
En quelques mots, je vous entendais.
En quelques mots, oui, bien sûr, ce serait inacceptable pour moi de ne pas avoir une réflexion sur la fin de vie à différents niveaux. Mais surtout, on passe sa vie, le peu qu'on a sur Terre, à essayer d'apporter de la qualité au quotidien à sa vie. Et on ne ferait pas, on n'aurait pas de réflexion sur comment apporter du confort, pardon, ça peut paraître antinomique, mais du confort au moment où il s'agit de partir, de s'en aller, de mourir, de décrépir, on peut appeler ça comme on veut. La vieillesse, c'est une maladie en soi, Oui, ça peut très bien se passer, ça peut très mal se passer aussi, mais en tout cas, la fin de vie, dans ce qu'elle a de plus terrible, de plus dramatique, quand à un moment donné, on se pose la question de savoir s'il y a un très beau film qui vient de sortir sur les écrans qui s'appelle Les Vieux, comment on va faire pour ne plus être un boulet pour les autres ? On ne peut pas ne pas avoir cette réflexion. Les moyens, ça vient après. Parce d'abord la réflexion et ensuite le mettre en œuvre.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de cette question, on parle du vieillissement maintenant, mais c'est vrai que cette question de la fin de vie, aujourd'hui, le débat, il s'oriente beaucoup sur des cas extrêmes, sur des maladies dégénératives, des maladies qu'on peut avoir beaucoup plus jeunes. Je pense à la maladie de Charcot, par exemple, alors que peut-être, en effet, le principal, entre guillemets, c'est aussi la question du vieillissement de la population.
Non, mais le problème qu'il y a, qui est quand même très important, c'est qu'en même temps, la solitude augmente énormément. C'est-à-dire qu'avant, il y avait quand même des relations familiales, il y avait des relations de voisinage. Et aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs dans les villes ou dans les campagnes, vous avez de plus en plus de personnes âgées, notamment des femmes, qui sont dans une solitude absolument totale. Et je crois que pour qu'il y ait des bonnes conditions de fin de vie, de quelle qu'elle soit, soit qu'elle soit touchée par la maladie, soit qu'elle ne le soit pas, c'est que je pense que c'est la relation humaine. On est des animaux sociaux. Il faut absolument que ces relations humaines se rétablissent. Et que ça, c'est peut-être qu'il faudrait aussi, les EHPAD, c'est très bien, mais ça isole les vieux des jeunes. Il faudrait peut-être arriver à une mixité des âges aussi.
Alors, ces questions sociétales, elles n'éludent pas la question sociale. Il nous reste un petit instant, on va l'aborder tout de même, celle de l'emploi. Aujourd'hui, quelques 1300 personnes sont dans l'attente quant à leur avenir professionnel. Je parle bien sûr des salariés du groupe Casino. Des mois qu'on en parle, qu'ils sont suspendus aux décisions de justice, comme celle du tribunal de commerce de Paris, fin février, qui a mis en place ce plan de sauvegarde, qui a occasionné la revente des magasins. Alors, depuis le sort des 19 magasins insulaires, reste lui en suspens, un peu plus que les autres. Donc, 4 offres de reprise étaient sur la table aux dernières nouvelles. Anne, vous avez écrit là-dessus. Est-ce que quelqu'un tient la corde ?
Apparemment, c'est Système U qui tiendrait la corde. Ça reste à vérifier, ça reste à entériner et à valider, évidemment. N'empêche, bon, aujourd'hui, Palade, le directeur général du groupe Casino, est en Corse, au siège à Bastia, pour rencontrer le STC. Oui. C'était ce matin et la CGT cet après-midi. Donc, il va falloir, à un moment donné, de toute façon, annoncer s'il y a un repreneur. Et oui, quel est le nom de ce repreneur ? Il y a 1300 salariés qui attendent. Il faut absolument trancher et puis surtout savoir dans quelle mesure le plan qui a été annoncé au niveau national touche ou pas partiellement, plus que ça, les salariés insulaires qui appartiennent à la filiale du groupe Casino.
Au niveau national, donc, c'est un plan qui concernerait entre 1300 et 3200 personnes. La proportion, elle peut inquiéter aussi localement, compte tenu des effectifs ici. Il y a cet impact donc sur les salariés, et bien évidemment sur les sous-traitants, sur les fournisseurs aussi, sur un territoire comme le nôtre, il peut être énorme, Jean Vitus.
Oui, les conséquences vont être pour tout le monde, mais je pense que dans cette affaire de reprise, je ne suis pas sûr qu'il y aura un traitement général. Je ne sais pas quelle enseigne va récupérer les magasins Casino, ou alors si cela va se faire en fonction des lieux d'implantation. 19 magasins répartis sur l'ensemble de la Corse, peut-être qu'il y aura une reprise différente pour chacun des magasins. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut être vigilant à ce que, du point de vue social, il n'y ait pas une casse importante, même si on le sait souvent, quand il y a des fusions ou des changements d'enseigne, c'est souvent les salariés qui en font les frais.
De toute façon, les fusions, généralement, c'est vrai, donnent une restriction du personnel, sauf pour la Corse, où la collectivité unique a donné, au contraire, une inflation de personnel.
Donc... Mais ça, c'est pour le secteur public.
On verra, ce sera sûrement malheureusement pas le cas aujourd'hui. On aura des réponses donc d'ici ce soir et évidemment dans notre matinale demain. Merci beaucoup à tous les trois. Nous allons rendre l'antenne. Il est l'heure, on me signale, du côté de la régie. Merci Jean Vitus, Gabriel, Anne. Le Club de la Presse revient la semaine prochaine avec évidemment son commandant, Patrick Winchegar.
RCFM, le club de la presse.